Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Qui ne connaît pas Jean Paulhan, le célèbre éditeur et directeur de la Nouvelle Revue Française à partir de 1953. On sait qu'il était également écrivain et critique. Ce qu'on sait moins, c'est que son œuvre comporte des écrits sur l'art, dont un livre intitulé « Fautrier l'enragé », consacré en 1949 au peintre Jean Fautrier. Voici un dialogue mémorable entre Paulhan et Fautrier, enregistré en 1951 pour l'émission « Des idées et des hommes ».
Le journal Parler présente des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
Au cours de cette émission, vous entendrez le peintre Jean Fautrier, l'essayiste et critique Jean Paulhan, dans un petit débat dirigé par Jean Amrouche sur les originaux multiples.
Les originaux multiples, voilà une dénomination bien curieuse, car l'idée d'originalité en art est pour nous étroitement liée à celle de singularité. Il était entendu jusqu'ici que l'œuvre d'art est comme par essence unique et en tant qu'elle est unique, non reproductible et irremplaçable. De sorte que tout dommage causé à une œuvre d'art de valeur était tenu pour proprement irréparable. À la lettre, l'œuvre d'art pouvait être considérée comme une œuvre sans prix. Elle relevait, dans la classification et la hiérarchie des objets, d'une catégorie particulière, radicalement différente des catégories d'objets de valeur mesurable par relation à un étalon commun. On aperçoit aussitôt que la valeur de l'œuvre d'art se déterminait en fonction de deux données hétérogènes. D'une part, sa beauté, sur laquelle, évidemment, on peut toujours discuter, d'autre part, son caractère unique, représentant l'extrême du caractère sur quoi se fonde la valeur des pièces de collection, la rareté. C'est si vrai que dans l'œuvre entière d'un grand artiste, des ouvrages même mineurs à en juger du point de vue de la seule esthétique sont surévalués par rapport aux autres s'il n'existe qu'un très petit nombre d'exemplaires. Or, voici un grand peintre moderne, Jean Fautrier, qui va bouleverser ces notions, provoquer une véritable révolution par l'invention d'une technique qui permet de créer autant d'exemplaires qu'on voudra d'une même œuvre originale. On aperçoit vaguement quelques-unes des conséquences de cette découverte. Conséquences en ce qui concerne les peintres eux-mêmes, l'esprit de la peinture, les techniques même de l'art de peindre, conséquences aussi sur le marché de la peinture. Mais je laisserai d'abord à Jean Paulhan, grand ami de Fautrier et expert en peinture moderne, le soin de vous présenter l'inventeur des originaux multiples.
Entre tous les grands peintres d'aujourd'hui, Fautrier est sans conteste. Par son étrange violence, par sa constante violence irréfrénée, celui qui se trouve le mieux accordé de l'intérieur à la condition humaine telle qu'elle nous est imposée depuis quelque 30 ou 40 ans. Il réplique assez exactement dans la peinture à ce que sont en littérature les romans de Malraux. Et s'il trouve encore, chez les amateurs et dans le public, quelque résistance, c'est d'abord que l'on n'attend pas de la peinture la même violence que l'on accepte en littérature, c'est ensuite la même résistance que pouvait rencontrer du temps qu'il est passé à une peinture violente et excessive Goya chez ses contemporains. Mais ce qui me paraît important, c'est que Fautrier n'est pas moins accordé à la condition intérieur de la peinture. Il est, par deux séries d'œuvres et de tentatives, qu'il vient de mener à bonne fin. Pour la première fois dans l'histoire du monde, nous vivons un temps où aucune forme d'art ne nous est étrangère. Nos musées accueillent, nos yeux acceptent le voisinage de Poussin et de l'art nègre et les dessins d'enfants près du Titien. C'est un premier point. Et voici le second, c'est que l'art n'est plus réservé aux princes et aux gens du monde. Il est devenu populaire, il est devenu universel. Ce n'est pas seulement le grand bourgeois français qui exige de la peinture, c'est aussi bien le japonais ou le philippin, c'est l'ouvrier et c'est le paysan. Paul Valéry, qui fait cette remarque, disait à ce propos, il faut s'attendre qu'une si grande nouveauté transforme toute la technique des arts, agisse sur l'invention elle-même et aille peut-être jusqu'à modifier la notion essentielle de l'art. Eh bien, il me semble que les deux découvertes de Fautrier répliquent assez exactement aux deux traits essentiels de la condition de la peinture telle qu'elle se présente aujourd'hui. Fautrier lui-même est beaucoup mieux qualifié que moi pour les exposer, vous allez l'entendre. Mais je voudrais simplement vous dire que sa première découverte consiste à faire à grand tirage, par une combinaison de lithographies, de gravures et de pochoirs qui varient avec chaque reproduction, des imitations de tableaux si fidèles que les experts, les critiques d'art et même les auteurs, en les regardant à une distance de 25 à 30 cm, oui, de 25 à 30 cm, s'y trompent. La seconde découverte est beaucoup plus surprenante. Elle consiste à remplacer le tableau original à exemplaire unique, tel que nous le connaissons depuis la Renaissance, par des originaux multiples, que Fautrier tire à 400 ou 500 exemplaires, mais qu'il pourrait tirer à 4000 ou 5000, rigoureusement identiques les uns aux autres et présentant tous les mêmes qualités, je ne dis pas seulement du dessin, c'est évident, mais de la matière, la même épaisseur, les mêmes mats et les brillants, les empattements et les diverses touches, lourdes ou légères. J'en ai assez dit, si j'ai pu vous faire entendre que nous sommes sans doute à la veille de ce bouleversement que prévoyait Valéry, bouleversement aussi profond qu'a pu l'être en peinture le passage de la fresque au tableau de chevalet, en littérature, le passage du manuscrit au livre imprimé, et pour le reste, que cette métamorphose soit en quelque façon remise aux mains de Jean Fautrier, eh bien, c'est bien assez pour que je l'attende sans la moindre inquiétude, mais plutôt avec une sorte de confiance joyeuse.
Eh bien, Jean-Paulin, vous n'allez pas partir. D'abord, nous avons encore besoin de vous. Et si vous vouliez partir, je vous contraindrais bien à rester, avec l'aide de Fautrier d'ailleurs. C'est à lui de répondre à tout ce que vous venez de dire, et je crois qu'il est assez réticent. Si je résumais un peu cela, pour demander à Fautrier quelques éclaircissements, il s'agit de deux découvertes, laissant de côté les jugements que Jean Paulhan, qui était tout à fait qualifié pour le faire d'ailleurs, a pu porter sur le talent de Fautrier. Première découverte, une façon toute nouvelle de reproduire des tableaux. Deuxième découverte, les originaux multiples. Si vous voulez bien, nous nous occuperons essentiellement de ces originaux multiples et des diverses perspectives que cette découverte permet d'ouvrir, tant en ce qui concerne l'art lui-même que le marché de la peinture. Dites-nous, Jean Fautrier, quel procédé vous employez pour créer ces originaux multiples?
C'est une chose beaucoup trop compliquée. Un original multiple peut être conçu avec un tissu, avec n'importe quelle matière. Il ne s'agit même pas d'imprimerie.
Mais il ne s'agit pas tant de le concevoir, il s'agit de savoir comment vous faites.
Pour le fabriquer, il faut le concevoir. C'est-à-dire, il faut que le peintre, désormais, pense à un tableau en dehors de la technique propre et surtout de la peinture à l'huile.
Et alors, quelle technique doit-il élire ?
Je viens de vous le dire, n'importe laquelle. Pour ma part, j'ai choisi l'imprimerie. J'aurais pu choisir autre chose.
Pourtant, je crois me souvenir que lors de votre dernière exposition, où figuraient justement des originaux multiples, on avait le sentiment, en entrant dans la salle, d'avoir affaire non pas à de l'imprimerie, mais à de la peinture.
Oui, j'ai choisi l'imprimerie parce que jusqu'ici, l'imprimerie est demeurée aux mains des artisans, les règles ont été établies par eux, et le peintre n'avait qu'à s'incliner devant des exigences qui n'étaient justifiées que par le désir de l'imprimeur de faire au plus facile. Même en gravure, le terrain à exploiter reste inconnu. Rarement il fut donné une occasion de concevoir en fonction des possibilités, et les ressources de l'imprimerie, des enduits, des écrans, sont telles qu'elles permettront à chacun de découvrir une véritable technique personnelle, et avec infiniment plus de champ que la seule peinture. À partir du moment où l'imprimerie sera placée entre des mains d'artistes, ils s'apercevront que cet enrichissement des moyens ira jusqu'à leur procurer non pas un simple objet imprimé, mais un tableau qui n'a rien à envier à une peinture à l'huile. Et c'est en se servant de ces procédés mécaniques que, pour l'instant, l'original multiple doit se réaliser.
Par conséquent, ce sont de procédés mécaniques que vous vous servez. Le peintre abandonne le crayon, les diverses brosses, etc.
Il l'abandonne surtout. Il faut que dans la peinture de deux mains, l'idée de touche sacrée, l'idée d'entrer en matière personnelle soit abandonnée.
Bigre, qu'en pensez-vous, Jean Paulhan ?
Ah, ça me paraît très curieux, mais je ne suis pas peintre, de sorte.
Vous n'êtes pas peintre, mais enfin, ça ne me paraît pas simplement pas curieux. J'ai l'impression que c'est une chose véritablement catastrophique. Où est alors cette espèce de relation physique, cette relation, comment dirais-je, de presque génésique qui existe entre l'œuvre peinte et celui qui la peint ? Et cette satisfaction presque corporelle même de l'acte de peindre.
Ils ont du reste déjà senti la nécessité d'échapper à une technique usée. Et nombreux sont ceux qui ont cherché une diversité de matières qui serait plus parfaitement réussie en dehors de la peinture à l'huile. Ils restent cependant encore attachés à la magie de la touche inspirée. Mais déjà personne ne songerait sérieusement à attendre un effet devant un paysage. Si le peintre acceptait de se refuser le plaisir d'exécution dans les glacis et les fignolages pour se donner davantage à la conception du tableau, s'il orientait ses recherches vers un changement radical de matériaux, il pourrait demain placer la peinture sur le plan d'une fabrication en dehors du domaine de la reproduction. Et si la peinture à l'huile doit être abandonnée, c'est qu'elle met un obstacle à cette réalisation. Tant que le peintre se complaira dans la joie matérielle de son occupation, il produira une masse d'essais et de répétitions qui n'ajouteront rien à son œuvre et qui, en tout cas, n'ont pas un intérêt particulier à être diffusées.
Si je vous comprends bien, cette peinture, qui servira surtout de procédé mécanique, donnera des satisfactions sur le plan de la conception pure, beaucoup plus grandes, avec plus de liberté, que l'ancienne technique artisanal et manuel.
Et du résultat. Mais je veux dire qu'un original multiple, où les premiers qui sont sortis mis à côté d'un tableau original fait par le même peintre, ne peut en rien se distinguer.
J'en tombe d'accord, c'est bien possible. Il est en tout cas certain que les exemples que vous en avez donnés sont des exemples particulièrement probants. Et probants jusque dans le comique. N'est-ce pas vous, Fautrier, qui avez fait la petite expérience qui consiste à placer sous les yeux d'un grand peintre contemporain une reproduction de son œuvre par vos propres procédés et l'œuvre originale que vous avez reproduite, et le peintre s'est trompé, ou du moins le peintre ne s'est pas trompé, aviez-vous dit. Il avait tout simplement confondu la reproduction avec l'œuvre originale.
Oui.
Par conséquent,
cette identité absolue entre l'œuvre originale unique et les reproductions qu'on en peut prendre est à peu près du même ordre que l'identité qui doit exister entre les différents originaux multiples, qu'ils soient tirés à 300, 400 ou 10 000 exemplaires. Mais je voudrais vous demander ce que pensent les peintres de votre découverte.
Ils n'ont pas le temps de penser, ils sont d'une autre génération. Je veux dire qu'ils ont passé des années et des années à parfaire une technique qui est déjà usée, et il n'est pas question pour ceux qui existent aujourd'hui d'en chercher une autre. La technique en peinture est une chose qui est une sorte de catastrophe, qui est un langage à inventer, qui est laborieux, qui est fastidieux. Comment pouvez-vous demander à des gens d'en chercher une autre aujourd'hui ?
J'ai l'impression que Jean Faudrier est très violent à l'égard de ses confrères. Et j'en déduis qu'il n'a pas trouvé beaucoup, comment dirais-je, de compagnons dans l'aventure où il s'engage. Qu'en pensez-vous, vous, Jean Paulhan, dans votre entourage ?
Il avait des compagnons inconscients depuis 30 ou 40 ans. Tout le cubisme est parti des papiers collés, qui était une tentative héroïque pour échapper au charme à la fois et à la fausseté de la touche, pour échapper à la touche magique.
Oui. Je pense du reste que les papiers collés, s'ils avaient été faits en série, et ils pouvaient l'être, auraient été le premier exemple d'originaux multiples. Voyons.
Oui, mais justement, ils n'ont pas été faits en série. Mais Jean Paulhan n'a pas répondu tout à fait à la question que je posais. Je voulais lui demander, à lui qui fréquente beaucoup de peintres, de me dire dans quelle mesure, comment réagissent les peintres, jeunes ou vieux, à cette invention bouleversante de Faudrier.
Ils ont été faits en série dans une certaine mesure, en ce sens que dès que Braque a eu fait 5 ou 6 papiers collés, Picasso a fait les mêmes, Grise a fait les mêmes, et il était absolument impossible de distinguer un papier collé de Picasso d'un papier collé de Braque.
C'est exact.
Oui, ceci pour les papiers collés, et pour la vérité historique. Mais pour les originaux multiples, qui sont notre affaire principale aujourd'hui, les peintres sont-ils dans leur ensemble d'accord avec Faudrier ou sont-ils contre ?
Ça les intéresse, ils m'ont l'air très touchés, très intéressés, ils m'ont l'air de réfléchir, quoi qu'en dise Jean Faudrier. Je ne sais pas exactement ce qui va sortir de leur réflexion, mais tous ceux que j'ai pu voir étaient très intéressés et sympathiquement intéressés.
Et les critiques d'art, ou les esthéticiens, pour employer un terme plus noble ? Qu'en pense-t-il ? Car enfin, ça n'ira pas sans conséquences graves à cet égard aussi. Car toute une partie de l'esthétique traditionnelle repose sur le caractère unique et par conséquent irremplaçable de l'œuvre d'art. Sur le mythe de l'œuvre d'art irremplaçable. Ce mythe étant dorénavant aboli par les originaux multiples, que va-t-il en résulter ? C'est toute une échelle de valeurs qui me paraît devoir dégringoler.
C'est un sujet splendide pour les critiques d'art. Je pense qu'ils sont enchantés. Ceux que je connais sont absolument ravis. Pour la première fois, ils ont quelque chose de précis à dire.
Et vous, Faudrier, si vous en avez parlé avec les critiques d'art, quelle réaction avez-vous enregistrée ?
Je ne parle pas aux critiques d'art.
L'exécution est simple. Eh bien, parlons alors de gens avec qui vous parlez sans doute quelquefois. Parlons des marchands de tableaux. Eux, qu'en pensent-ils, les marchands de tableaux ?
C'est une autre
affaire. Parce que ça doit les intéresser bigrement.
D'abord, premièrement, à Paris, il n'existe guère de marchands de tableaux. Il y a là une raison, les stocks n'existent plus.
Mais où sont-ils ?
En Amérique, pour ceux qui en possèdent.
Alors parlons du marchand de tableaux d'Amérique, puisque vous en revenez.
Mon Dieu. Eh bien, il ne sait pas trop. Il voudrait bien vendre. Il ne sait pas quoi. L'essentiel, c'est qu'il puisse vendre.
Oui.
Mais j'ai tout de même rencontré tout au moins un marchand de tableaux qui a compris qu'il n'y avait pas un déshonneur à vendre des quantités d'originaux multiples à bas prix, plutôt que de s'éterniser à négocier une pièce précieuse.
Je ne sais pas, parce qu'on peut s'éterniser à négocier une pièce précieuse, parce qu'une pièce précieuse est susceptible de plus-value, et par conséquent, c'est une spéculation dans le temps. sur une pièce précieuse qui est sans prix, pour ainsi dire, on peut évidemment peiner pendant des semaines et même des mois pour la négocier, mais le profit est très important. Par conséquent, toute une part de jeu, de spéculation, de divination, disons, qui pouvait faire l'un des charmes de ce métier, dans le cas d'un homme comme Vollard, par exemple, disparaît.
Oui,
il y a un aspect
économique
de la question.
Il n'y a plus de peinture à vendre.
Il n'y a plus de peinture à vendre.
Voilà la grande question.
Et alors, vous pensez par conséquent que, économiquement, commercialement même, vos originaux multiples vont se trouver disposés de l'appui des marchands de tableaux?
Certainement d'ici quelque temps. Du reste, le marchand de tableaux gardera une part très importante dans l'affaire. L'original multiple a besoin d'être édité. C'est
oui.
un livre.
Oui.
Le marchand de tableaux deviendra éditeur. Il détiendra le stock.
Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il pourra écouler les originaux multiples les uns après les autres, trafiquer sur le tirage...
Exactement comme un éditeur.
Enfin, maintenir les prix au plus haut cours.
Exactement.
Et vous seriez d'accord avec ça? Parce qu'il m'avait paru apercevoir dans le petit exposé préliminaire de Jean Paulhan, je ne sais quel accent social et révolutionnaire, cette idée, enfin, d'un art pour le peuple, d'un besoin profond maintenant que l'on sentait dans les masses populaires, chez les ouvriers, de voir de la peinture, de la vraie peinture et autre chose que les horribles chromos qui font encore la décoration des maisons pauvres.
Oui, et vous croyez que pour le peuple et dans les expériences commerciales avec le peuple, il n'y a pas de spéculation?
Je crois malgré tout que la spéculation est assez limitée. Elle est limitée, si vous voulez, par le pouvoir d'achat du peuple. Et le pouvoir d'achat du peuple me paraît assez insuffisant pour lui permettre d'accéder à ces originaux multiples qui, de toute façon, seront d'un prix assez élevé.
Non, ils seront du prix d'une reproduction et bien au-dessous.
D'une reproduction et bien au-dessous?
Oui.
Eh bien, alors là, je crois que on ne peut qu'y applaudir. Mais j'ai le sentiment, en dépit de tout, que votre optimisme a besoin d'être renforcé et qu'il doit être renforcé à la fois par les obstacles que vous allez rencontrer et par les solides inimitiés et les amitiés dont vous devez vous entourer. Car ce n'est rien moins qu'une révolution dont les dimensions étaient insoupçonnées de moi et certainement de nos auditeurs jusqu'à ce soir.
Vous venez d'entendre le peintre Jean Fautrier, l'essayiste et critique Jean Paulhan, dans un petit débat dirigé par Jean Amrouche sur les originaux multiples.
Le journal parlé vous a présenté « Des idées et des hommes », une émission de Jean Amrouche.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 7 avril 1951. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.